Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Chaque année, plus de 7000 festivals sont organisés en France. Un phénomène en pleine expansion depuis les années 2000, mais qui pour autant est loin d'être nouveau. C'est Hector Berlioz qui fonde le premier événement de ce type en 1869. L'éco-régie d'Orange, c'est le nom de ce festival, a fêté ses 150 ans en 2019. Un festival de taille plutôt modeste qui ne rivalise pas avec les mastodontes du secteur, tels que le Festival Interceltique de Lorient ou la bien connue Fête de Lima, qui rassemble chaque année plus de 800 000 participants. Si la Bretagne est souvent mise à l'honneur, l'Occitanie est elle aussi une terre de festival. Chaque année, plus de 150 événements de ce type se déroulent rien qu'entre le Gard et l'Hérault, avec une grande hétérogénéité. En effet, quel point commun entre le très parisien Festival Radio France et la fête du pois chiche de Montarennes, entre le cratère surface d'Alès et le printemps des comédiens du Domaine d'Eau, ou entre le feu Garance Reggae Festival de Bagnols-sur-Cèze et le tout compte fait de Clarensac. Rien ? Peut-être tout, au contraire. C'est ce que révèle en partie la dernière enquête de notre invité. Il est chercheur au laboratoire de sciences politiques de Montpellier, le CEPEL, qu'il dirige par ailleurs. Il coordonne depuis 5 ans avec Aurélien Jacquouan la grande enquête SOFEST. SOFEST, 25 000 questionnaires, 3500 bénévoles enquêtés, 1300 festivals analysés dans 13 régions. Cette année, les deux coordinateurs et leur équipe composée d'une dizaine de chercheurs se sont penchés sur les spécificités des logiques culturelles, sociales et économiques des festivals en milieu rural, qui représente pas moins d'un tiers des 7300 festivals recensés. On en parle avec lui pendant les 20 prochaines minutes. Emmanuel Négrier, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans Allume la science.
Merci.
Comme toujours. C'est un festival à elle toute seule avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, nous vous proposons un dernier reportage au CEMIPAI, le Centre d'études des maladies infectieuses en pharmacologie anti-infectieuse. Et pour terminer cette jolie série, c'est donc Sébastien Lyonnais qui nous fait découvrir son joujou préféré, un microscope à force atomique. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les détails de cette enquête ? C'est fin 2023 que France Festival a choisi de réaliser un volet de la recherche SOFEST qui soit consacré au festival en ruralité. Comment est-ce que vous avez procédé pour la mener, cette enquête ?
Eh bien, quand on nous a posé la question de savoir si on avait quelque chose à dire sur les festivals en milieu rural, ou en milieu ruraux, et c'est très justement dit parce que la ruralité est plurielle, on y reviendra peut-être. On s'est dit, mais oui, on a accumulé toute une série d'informations sociologiques, économiques, territoriales sur ce que sont les festivals en général et donc sur ce que sont en particulier les festivals qui sont dans les milieux ruraux. Donc on l'a fait sous un angle cartographique, on a regardé sur les 7300 festivals, qu'est-ce qu'il se passait du côté de la ruralité. On l'a regardé sur le plan sociologique avec nos études sur les publics. Est-ce que les publics en milieu rural sont différents des publics en milieu urbain? Et puis on l'a regardé aussi sur les esthétiques, sur les équipes de création de festivals, sur également les contraintes qui sont aujourd'hui face à eux pour durer, tout simplement.
Est-ce que c'était quelque chose qui était peu documenté jusqu'à présent ?
Oui. Alors, la documentation sur les festivals, elle est traditionnellement très monographique, avec de magnifiques mémoires, des documentaires plus ou moins scientifiques qui sont réalisés sur tel ou tel festival. Mais pour avoir une idée plus globale de l'ensemble du mouvement et tordre le cou à certaines idées reçues, là, il n'y avait pas, grand-chose, il n'y avait même rien, en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est précipité sur la question pour la renseigner.
Alors justement, vous avez recensé un total de 7300 festivals, dont un tiers en milieu ruraux. Est-ce que toutes les régions ont des festivals en milieu rural ? Est-ce qu'elles sont toutes représentées dans votre cartographie ?
Oui, toutes les régions, même l'Île-de-France, qui a une partie rurale qu'on oublie parfois, toutes les régions sont représentées, mais à des degrés divers. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que si on considère, grosso modo, qu'il y a un tiers des festivals qui sont en milieu rural, la population n'est pas, elle, à un tiers vivant en milieu rural. Autrement dit, il y a une forme d'aménagement culturel du territoire qui se produit en faveur des territoires ruraux par le biais des festivals, que les festivals eux-mêmes n'ont absolument pas en tête et que les pouvoirs publics n'ont pas davantage pris en compte. Alors, quand je dis à des degrés divers, c'est qu'il y a des régions où la population rurale est plus importante que la part des festivals en milieu rural. Prenons un exemple, la région Grand Est, la région Normandie. Et il y a des régions où, au contraire, la population rurale est plus limitée que le nombre de festivals qui existent en milieu rural. La région PACA, la région Occitanie sont dans ce cas.
Alors, vous vous êtes demandé aussi si les festivals ruraux ont des orientations culturelles et artistiques spécifiques. Et il en ressort que les festivals ruraux sont surtout des festivals musicaux. Est-ce qu'il y a une différence entre le type de musique qu'on propose dans les festivals ruraux ou dans les festivals en ville ?
On peut le dire, oui. Alors, la première chose qu'on peut considérer, c'est le fait que les festivals en milieu rural, quand il en existe un, la plupart du temps, sauf rare exception, c'est un festival de musique. Parce que la musique est le point de ralliement de beaucoup de gens, de beaucoup d'envie, soit de se projeter dans l'organisation d'un festival, soit de se projeter d'y participer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que dans les milieux ruraux, il y a des exceptions, j'y reviendrai, mais dans les milieux ruraux, le type de festival qui est davantage développé est un festival de petite envergure et qui n'est pas forcément un festival disposant d'un gros appareillage technique et se déroulant dans des univers fermés, des équipements dédiés, tout simplement parce que les milieux ruraux ne disposent pas ou très peu d'équipements dédiés. Donc ils doivent jouer soit avec l'extérieur, c'est la raison pour laquelle en milieu rural, les festivals ont beaucoup plus lieu l'été qu'en milieu urbain, se déroulent, quand ils se déroulent en milieu fermé, dans des salles polyvalentes, dans des espaces qui ne sont pas nécessairement seulement dédiés à la culture. Mais d'ici là, d'ici à en faire un trait caractéristique de ce que serait la ruralité, avec les idées qu'on trimballe régulièrement. Hein, la culture de la ruralité, c'était la culture d'avant, c'est du folklore, c'est de l'amateurisme. Ça, c'est une idée totalement inexacte, parce que à la fois dans l'offre culturelle en milieu rural, il y a, par exemple, du côté des musiques classiques, des festivals qui sont de renommée internationale. Je vous donne un exemple dans la région, le festival de Sylvanès, qui a lieu dans le fond de l'Aveyron et du sud de l'Aveyron dans un centre culturel de rencontre. C'est un festival qui est totalement en milieu rural et qui pour autant attire des affiches tout à fait de réputation internationale, de prestige. Autrement dit, il ne faut pas considérer que parce qu'on est en milieu rural, parce qu'on est dans une économie relativement particulière par rapport à ce qu'on peut voir dans les milieux urbains, que l'ambition de ces festivals sur le plan artistique et culturel serait revue à la baisse.
Alors, vous vous êtes intéressé dans cette enquête aux créateurs de festivals et aux équipes en général. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des liens qui unissent les équipes dans ces festivals organisés en milieu ruraux ? C'est pas tout à fait la même chose qu'en ville, pour le coup.
Ben, ça nous a vraiment intéressé, cette question, et on a mis en évidence la force des liens forts. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un sociologue américain qui s'appelle Mark Granovetter et qui a développé toute une théorie du capital social. Et il a dit, ben, finalement, quand vous avez un ami, vous savez tout de lui, mais vous ne pouvez rien faire de cette relation. Il ne va pas vous aider à trouver un boulot, à vous insérer dans telle ou telle société, etc. Donc vous le connaissez très bien, c'est un lien fort, mais finalement, ce lien fort ne vous procure pas de capital social. En revanche, les liens faibles, c'est-à-dire des liens d'interconnaissance professionnels. Bon, on est collègues, mais on ne mange pas le soir ensemble, on se connaît assez peu, voilà. Mais on a plein d'amis de ce point de vue-là. Des amis, enfin, ou des amis, des connaissances,
ouais.
Des liens faibles. Et ces liens faibles, Marc Granovetter a dit, dans un article dont j'en vis même le titre, la force des liens faibles, un paradoxe. Eh bien, nous, on a là identifié la force des liens forts pour parler de la manière dont les équipes de création de festivals se composaient dans les festivals, notamment en milieu rural. En fait, quand on crée un festival en milieu rural, la première chose, c'est qu'on crée jamais un festival tout seul. C'est pas une opération individuelle, contrairement à ce que voudraient nous faire croire des directeurs de festivals ou directrices de festivals totalement charismatiques, parlant de leur projet, de leur personnalité, de leur génie à la tête d'un festival. C'est toujours une opération collective. Et le collectif dont il est question, en milieu rural, il est beaucoup plus constitué de proches que de collègues. Donc on crée un festival avec des voisins, avec des amis, avec des membres de la famille. En milieu urbain, la part des collègues, la part des partenaires professionnels appartenant à un secteur qu'on ne connaît pas forcément très bien, mais avec qui on sait qu'on va pouvoir faire un projet, eh bien, ces liens faibles sont beaucoup plus importants dans le domaine urbain que dans le domaine rural. Donc, en fait, l'alchimie particulière de la ruralité, elle est aussi à regarder dans cette sociologie des liens.
Alors, dans vos travaux précédents, vous avez montré le rôle indispensable des bénévoles également dans les festivals. Est-ce qu'on retrouve un tel engagement de bénévoles dans les festivals ruraux ?
Bien sûr, et pour une raison à la fois positive et moins positive. La raison positive, c'est que dans cette osmose des liens forts, il y a l'entraînement de la volonté, des volontaires, donc des bénévoles. Cette structure du bénévolat, elle porte des festivals. Et quand on pose la question à des directeurs de festivals, mais si vous aviez les moyens d'embaucher toutes ces personnes, est-ce que vous le feriez ? Certains nous répondent, mais non, pas du tout. Le bénévolat, c'est l'ADN du festival. Bon. Ça, c'est la première raison. On pourrait dire magnifique. La deuxième raison, elle est moins glorieuse, c'est que le rural, il est caractérisé, je le disais tout à l'heure, par un déficit relatif d'équipement dédié, mais aussi de professionnels dédiés. Et donc, le bénévolat, il remplit le rôle que ailleurs on confie à des professionnels. Et puisqu'il n'y a pas suffisamment de professionnels, les bénévoles vont jouer ce rôle. C'est la raison aussi pour laquelle les festivals en milieu rural se tiennent aussi souvent l'été. Pas simplement parce que l'extérieur est plus favorable l'été, c'est aussi parce que l'été, les professionnels qui sont en ville, les artistes, les techniciens, etc., ils sont en vacances où ils peuvent imaginer, projeter une partie marginale, mais importante pour eux, symboliquement, de leur activité dans un festival en milieu rural.
Alors, une question importante à soulever aussi, c'est la question des motivations pour créer un festival. C'est un gros travail. Alors, vous avez enregistré 9 registres de motivation. Je vais les lister rapidement. La valorisation d'une discipline artistique, donner aux artistes la possibilité de se produire, faire rayonner un territoire, créer du lien social sur un territoire, renforcer l'offre culturelle d'un territoire, favoriser le développement économique d'un territoire, répondre à la demande d'une collectivité publique, répondre à la demande d'un acteur privé ou enrichir l'offre d'un lieu culturel. Alors, on insiste beaucoup sur le territoire. Quelles sont les motivations les plus souvent citées en milieu rural ?
Eh bien, la liste que vous avez faite, on peut la diviser en 2, voire en 3. Il y en a 2 marginales, hein, à la demande d'une collectivité, à la demande d'un entrepreneur privé, ça n'existe quasiment pas. On ne fait pas un festival à la demande de quelqu'un. En revanche, il y a 2 motivations principales, 2 grandes catégories de motivations. Les motivations de développement territorial par la culture et les motivations de développement artistique sur le territoire. Et ces 2 motivations sont les 2 motivations centrales, quel que soit le territoire. Là où la spécificité rurale existe, c'est dans le fait de valoriser quand même plutôt le premier aspect sur le second. Mais je le dis avec beaucoup de prudence, parce qu'il ne faudrait pas en déduire que du coup, l'objectif artistique est relatif dans les festivals ruraux. Au contraire, en fait, l'offre culturelle festivalière en milieu rural, elle est aussi là parce que c'est quelquefois la seule possibilité d'offrir aux citoyens du territoire une possibilité de rapport à la culture qu'on trouve en de multiples lieux et occasions dans les mondes urbains. Autrement dit, il y a aussi un soin particulier apporté par les festivals en milieu rural à développer cette offre, et qui est une offre artistique et culturelle qu'il ne faudrait pas considérer avec ni condescendance ni mépris.
Alors, vous abordez aussi dans votre rapport la question du budget, et vous dites qu'en moyenne 41% des festivals ruraux sont subventionnés contre 56% en milieu urbain. Ça tient à quoi cette différence?
Alors, ça tient d'une part au très grand nombre de festivals en milieu rural qui n'attirent pas les subventions publiques des autres niveaux d'action publique hors bloc local, commune et intercommunalité. Pour obtenir ces subventions, les subventions de l'État, les subventions de la région, les subventions des départements, les festivals en milieu rural, notamment les tout petits, sont mal équipés. Donc leur économie est plus de l'ordre d'un bricolage qui fait intervenir le bénévolat, des aides en nature de Tartampion, la volonté de certaines personnes de développer ces projets dans une logique de parrainage qui ne dit pas toujours son nom et qui ne demande pas toujours son rescrit fiscal pour bénéficier d'une exemption de taxes. Bref, il y a comme ça cette première explication. La deuxième explication, c'est quand on regarde la nature des recettes, les subventions des départements y sont beaucoup plus importantes. 11% en moyenne pour un budget de festival en milieu rural contre 6% pour un budget en milieu urbain de la part du département. Et ça nous met en alerte sur l'un des défis de ces festivals en milieu rural. Quand on connaît les finances départementales, leur étranglement, on peut se dire que les festivals en milieu rural, quelle que soit leur dynamique, sont plutôt face à une difficulté de taille dans leur renouvellement, dans le renouvellement de leur modèle économique.
Alors, la dernière partie de votre enquête, elle interroge le public des festivals ruraux. Et votre première leçon, ce que vous dites, c'est que finalement, le public des festivals ruraux, il est assez proche du public des festivals urbains. Est-ce que vous pouvez nous décrire qui fréquente ces festivals?
Finalement, ça a été notre grande surprise. Quand on a travaillé sur la sociologie des publics en milieu rural en Lozère pendant toute une année, on s'est dit, on va rencontrer les vieux, on va rencontrer des goûts qui sont plutôt des goûts folkloriques, etc. Enfin, on avait en tête cette idée, on se disait bien quand même, pour être très honnête, que c'était sans doute pas tout à fait comme ça que ça se passait, mais on a été quand même assez frappés de l'énorme convergence de la sociologie des publics de la culture en milieu rural en Lozère, donc le département de loin le plus rural de France, et la sociologie des publics des festivals en général. Autrement dit, un public qui se féminise. Il y a très peu de genres aujourd'hui qui sont plus masculins que féminins. On peut dire un certain jazz un certain métal. Le public du Hellfest dans la banlieue, l'extrême banlieue de Nantes, est un public encore plus masculin que féminin, mais qui se féminise beaucoup. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le taux de renouvellement des publics est assez considérable. Ça, c'est un truc qui nous a énormément frappé depuis longtemps. C'est que même pour des festivals qui ont 30, 40 ans, vous citiez les Corégies d'Orange, 150 ans, on a un taux de renouvellement d'une édition sur l'autre de quelquefois 20, 25, 35%. Donc 35% d'un public qui n'était jamais venu dans ce festival. Donc voilà, donc il y a une capacité de renouvellement qui est assez élevée, et puis une surreprésentation des catégories les plus diplômées et des catégories sociales supérieures. Alors c'est un peu moins le cas en milieu rural. Pourquoi ? Parce qu'en milieu rural, il y a beaucoup moins de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Mais néanmoins, cette catégorie est surreprésentée dans les festivals, y compris en milieu rural.
Alors, on arrive sur la fin de l'émission. Je vais donc me dépêcher. Une différence que vous notez entre public urbain et public rural, c'est le rapport à l'espace et au temps. Vous notez notamment qu'on se déplace plus facilement pour un événement culturel à la campagne. Et vous dites qu'une des préconisations utiles pour soutenir justement les festivals ruraux, ça pourrait passer par une politique durable des mobilités. Alors, ça pourrait ressembler à quoi ?
Ben, ça pourrait ressembler à deux choses. La première, c'est une incitation hyper volontariste au covoiturage. Ça pourrait aussi passer par l'organisation de navettes intelligentes, c'est-à-dire des navettes où, par exemple, dans le parcours, qui quelquefois peut atteindre un mini-marathon, hein, enfin même un marathon, tout simplement, 42 km et quelques, il y ait une prestation artistique, pourquoi pas. Donc on pourrait parfaitement imaginer que la politique culturelle, plus globalement, soit ou réfléchisse davantage au fait qu'elle est aussi une politique des transports, à tous les sens du terme.
Alors vous précisez aussi que, toujours pour soutenir ces festivals ruraux, on devrait finalement plutôt adapter donc, les instruments classiques aux territoires qui sont concernés, plutôt que faire une aide spécifique pour chaque festival, en fait, c'est ça que vous voulez dire ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Non, ce que je veux dire, c'est...
Je me doutais que c'était... Et je termine là-dessus, en plus.
Alors, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, il ne faut pas chercher la singularité essentielle du monde rural pour aider le monde rural à se développer dans cette logique-là, puisqu'on a montré que le public n'était pas spécifique, que l'offre culturelle et artistique n'était pas si spécifique que ça. Il faut, au contraire, trouver le moyen d'adapter les instruments à la singularité des territoires, avec leur logique, effectivement, de déficit de moyens, de problèmes de transport, d'accès, de professionnels. Donc il faut, non pas opposer le monde rural et son essence particulière et un monde urbain et son essence particulière, mais trouver la manière d'articuler les deux. Parce que finalement, c'est ce que font les publics, c'est ce que font les professionnels, c'est ce que propose ce paysage français des festivals.
Un grand merci encore une fois Emmanuel Négrier pour la clarté de vos enquêtes et de vos propos. Et profiter de l'été pour aller en festival, c'est parfait. On passe maintenant à la séquence reportage. Donc Aline, à ton honneur.
Oui, pour ce dernier reportage de la série consacrée à Semipaille, Sébastien Lyonnais nous présente son joujou préféré dont il pourrait parler pendant des heures. C'est un microscope à force atomique ou AFM qui est couplé à la fluorescence et c'est le seul au monde qui soit installé dans une plateforme de biosécurité de niveau 3. Tous les chercheurs se l'arrachent pour visualiser de façon topographique les virus ou les bactéries grâce à un dispositif qui offre d'incroyables possibilités d'observation.
Cette fois-ci, on va rentrer dans la super pièce, la pièce de nanoscopie. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les virus, c'est de les voir. Or, les virus, on est dans le monde du nano. Donc, le micro, c'est un millionième de mètre, un millième de millimètre. Le nano, on est donc dans le milliardième de mètre, millionième de millimètre. Et pour ça, il faut des machines, des microscopes qui soient beaucoup plus costauds qu'un microscope classique et qu'on a donc installé dans le laboratoire. Ici, on a l'Astar dans la grosse boîte. Donc, on a, dans cette pièce qui doit faire 10 mètres carrés, on a une grosse boîte en bois avec des vitres qui fait 1,50 m sur 1,20 m de haut, dans lequel il y a un gros microscope qui est donc dans cette boîte qui est une protection acoustique, puisqu'on a un microscope très particulier qui s'appelle le microscope à force atomique. Ça, c'est ma spécialité. C'est le microscope des nanotechnologies. Donc, c'est un microscope qui est plutôt pour les physiciens, mais qui, en fait, qui existe depuis les années 80. C'est un prix Nobel qui l'a inventé. Et c'est un microscope qui ne va pas utiliser la lumière, il va utiliser le contact de la matière directement. Et pour vous faire une idée, comment ça marche, ça va être exactement comme un peu un 33 tours, c'est-à-dire une petite pointe au bout d'une petite baguette, donc un petit levier, qui va se promener sur l'échantillon. Et cette petite pointe, elle va toucher la matière, elle va toucher l'échantillon, et donc sur un microscope qui va nous donner une image topographique, comme une carte IGPN, hein, exactement la même idée, il va nous donner une image 3 dimensions topographique de ce qu'on regarde. Et ben en fait, on arrive à avoir une résolution atomique. Il va être capable de nous montrer, de pouvoir voir des détails qui sont largement au-dessus de ce que peut résoudre un microscope normal. Puisque avec la lumière, on a un vrai problème, c'est que la lumière ne nous permet pas de voir des virus. Les virus sont plus petits que la longueur d'onde de la lumière et on n'arrive pas à les voir. Il faut un microscope électronique. Le problème du microscope électronique, c'est que on envoie des électrons. Donc du coup, l'objet va être détruit. Il faut tuer les échantillons, les fixer avec un truc chimique, ensuite rajouter un colorant pour qu'on puisse le voir avec un microscope électronique qui va envoyer des gros courants. C'est une énorme machine. Mais du coup, on va regarder quelque chose de mort. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est d'utiliser le microscope à force atomique qui permet de faire des images de particules, de virus, de cellules vivants. Et donc celui-là, on est très très fiers puisque c'est le seul de son genre au monde, en P3. Et en plus, on lui a accroché cette année un nouveau microscope en plus dessus, un deuxième, avec la fluorescence, ce qui fait qu'on a une machine qui est unique au monde. Dans la pièce, c'est séparé, on a une partie avec ordinateur pour pouvoir le piloter. Vous voyez, c'est deux écrans, c'est un gros machin. Et le microscope est de l'autre côté. Il est petit, mais costaud. Tous les gens sont toujours un peu « Ah, c'est ça le gros microscope !» Mais en fait, il est tout petit. Grosso modo, vous avez un microscope standard, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un statif, donc la tourelle de microscope, qui est vraiment un microscope normal. Mais le microscope AFM, c'est ce bloc bleu. Donc vous avez un scanner, c'est-à-dire une sorte de tripode bleu qui doit faire 15 cm par 15. Et c'est au centre de ce système-là que vous avez une petite pointe minuscule qui est en train de se promener sur la surface, en train de la tapoter. Vous avez levier avec une toute petite pointe qu'on arrive à très très bien voir là sur la surface. Et vous voyez, il est en train de faire point par point. La pointe est en train de se promener sur la surface. Et c'est vraiment comme un 33 tours, hein, une petite aiguille qui est en train de nous faire une image juste en 3 dimensions de l'objet qu'on regarde. Donc vous voyez, c'est une cellule. Alors, c'est une cellule qui produit du HIV. Là, il y a des virus fluorescents là-dedans. Donc l'intérêt, c'est qu'on a branché ce microscope à force atomique avec un microscope à fluorescence pour pouvoir donner des yeux au microscope à force atomique, qui lui fait que des images topographiques. Et par exemple, notre cellule ici, elle est en train de produire des virus. On va la voir, j'ai pris une image tout à l'heure. Voilà, donc on la voit là. Vous voyez là, par exemple, il y a un petit point ici blanc, qui est sûrement virus, puisque c'est ce qui est fluorescent dans cette cellule. Et cette cellule aussi, on a fait un autre marquage avec une autre protéine, qui nous permet de voir des protéines à l'intérieur qui font des fils. Vous voyez, c'est ça. Donc là, c'est l'image en fluorescence de la cellule, c'est la même, sauf que là, c'est l'image sans fluorescence, donc vous voyez, on voit que l'extérieur. Là, on arrive à voir des fils fluorescents, vraiment tout un câblage dans la cellule. Et le microscope AFM, lui, il est en train de faire une image de ça, ces fils.
On voit une image d'un virus HIV.
Alors le virus HIV, là, on va pas le voir là parce qu'il est super petit pour l'instant. Mais par exemple, ces petites boules là, ouais. À mon avis, c'est des virus, ça. Si on allait zoomer dessus, possiblement qu'on verrait une petite boule. Alors j'en ai pris une image tout à l'heure, je vais vous montrer. Mais du coup, il y en a aussi qui se promènent sur la surface. Donc il y en a, là on est sur une surface de verre. Il y a sûrement des virus sur la surface de verre. Et il y en a aussi qui sont en train de sortir de la cellule. Donc le but du jeu là, sur ce genre d'expérience qu'on est en train de faire en ce moment, c'est d'arriver à faire des images de ces virus en haut de la cellule. Pourquoi on veut faire ça? Parce que ce microscope, il fait des images topographiques, mais vu que la pointe, c'est un microscope donc à force atomique dans ce sigle-là, il y a force. Ça veut dire qu'on peut contrôler la force que la pointe exerce sur l'échantillon. Et avec cette pointe, on peut faire.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Vous vraiment, vous avez une pointe qui est en train d'appuyer sur quelque chose de lumineux. Et avec un peu de physique, on arrive à savoir si l'objet qui est en dessous, il est élastique, il est dur, il est mou. Donc ça permet de savoir si, par exemple, une cellule qui est infectée, elle va être plus rigide, plus dure. Qu'est-ce qui va lui arriver au niveau de sa mécanique? Donc en fait, c'est une machine qui fait plein d'images à la fois sur plusieurs canaux. Ça ici, c'est la topographie. Donc vous voyez, c'est 3 dimensions. Et ça, c'est la même image. Sauf que ça, c'est juste l'élasticité de ce que vous regardez. Plus c'est jaune, plus c'est dur. Plus c'est noir, plus c'est mou.
Alors, pour décrire aux auditeurs, on a l'impression d'une espèce de tache de café renversée sur une nappe au rouge.
Voilà.
C'est à peu près ça.
Donc, la même pointe qui fait ces deux images en même temps.
Exactement. Donc là, en fait, elle fait plein d'images différentes aussi. On peut regarder de l'adhésion. On peut regarder comment cette pointe interagit avec l'échantillon. Donc là, c'est une cellule vivante. C'est une matière molle. Sur du verre qui est dur, donc la machine voit que le jaune ici c'est du verre, c'est tout dur, et que les petits filaments de la cellule là, ils sont tout mous. Donc il est en train de mesurer en direct la mécanique de la cellule.
Et on peut mettre aussi des bactéries,
on peut appuyer sur les bactéries, ça marche très très bien avec les bactéries. Avec les bactéries, on peut s'amuser à faire plein de trucs, on peut s'amuser à les casser. Les virus, c'est aussi ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire qu'on peut trouver, on fait une première image des virus, on les a en 3 dimensions. Puis après, on cible son virus, un virus par un virus. On va venir avec la pointe, on va appuyer sur le virus, on va le casser.
Ah, on le casse mécaniquement.
Mécaniquement.
Comme ça.
Et donc, moi, j'essaye de mesurer combien il faut de force pour péter un Zika, pour péter un chikungunya. À quoi ça peut servir? Par exemple, si on a des molécules qui vont être des candidats vaccins qui vont nous faire que les virus sont mous, sont fatigués, sont cassés, moi, je peux mesurer si effectivement les virus qui sont ceux non traités vont avoir, il va falloir une force donnée pour les casser. Et des virus traités avec une molécule tartampion vont être plus mous, plus durs, j'en sais rien. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire.
Allume la science, c'est déjà fini. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de la saison. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.